Nous voulons te dire merci pour ce moment qui nous ont permis, Seigneur, de nous approcher de toi et d'entrer dans ton palais céleste. Et là, devant ton trône, Seigneur, nous avons eu cette liberté de nous exprimer devant toi, notre Père, devant toi qui nous a libérés de ténèbres et nous a fait entrer dans ton royaume de lumière. Et là, Seigneur, en ta présence, nous avons épanché tout notre être pour t'exprimer, Seigneur, ô Dieu, notre louange, notre adoration, notre reconnaissance. Merci d'avoir une oreille attentive, Seigneur, à toutes ces prières qui sont montées de nos cœurs vers toi. En effet, tu nous destines, Seigneur, à ce genre de choses. Tu nous destines à voir constamment, régulièrement, des temps comme ceci, des moments comme ceci. Ô Seigneur, nous laissons tout derrière nous pour nous approcher de toi et entrer dans ta présence avec reconnaissance, avec louange, avec adoration. Oh, merci pour tout. Après ce moment, nous voulons, Seigneur, te demander de nous parler, de déposer sur nos cœurs ce qui vient de ton cœur, de déposer sur nos cœurs ta parole. Car nous savons, ô Dieu, combien cette parole est importante pour nous, combien elle est vitale. C'est par elle, Seigneur, que tu nous fortifies dans tout notre être. C'est par elle que tu consoles les affligés. C'est par elle, Seigneur, que tu nous libères de toute faiblesse, quelle qu'elle soit. C'est par elle, Seigneur, que tu nous accordes la guérison lorsque nous sommes malades. C'est par elle que tu nous transformes, que tu nous métamorphoses, Seigneur, pour nous faire ressembler à toi et à toi seul. C'est aussi par elle que tu suscites la foi en nous. Selon qu'il est écrit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Alors parle-nous et fortifie notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Et gloire à Dieu. Aujourd'hui, je veux faire juste un service, parce qu'après ce service, je suis attendu dans une de nos extensions, et donc à la sanctification. Et c'est donc un de nos pasteurs, le pasteur Alain Bissouta, qui va prêcher au deuxième. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu continuer avec le thème que nous exploitons depuis plusieurs dimanches, à savoir l'importance de voir l'invisible et la foi de Dieu, foi en Dieu, point d'interrogation. Mais même si je ne vais pas exploiter ces thèmes et continuer, j'aimerais quand même revenir sur ces thèmes, faire une sorte de récapitulatif, permettre à chacun de nous de réaliser toute l'importance, toute la nécessité de tout faire pour avoir une relation intime, tout faire pour créer en amont des conditions qui permettent au Seigneur de générer cette foi dont nous avons besoin pour marcher dans le surnaturel, cette foi dont nous avons besoin pour expérimenter le règne de Dieu dans notre vie. En d'autres mots, cette foi dont nous avons besoin, mes amis, pour décréter la volonté de Dieu ici-bas. Alléluia. La volonté de Dieu dans notre vie, dans notre couple, dans notre famille, la volonté de Dieu dans notre travail. Oui, la décréter, déclarer la supériorité de Dieu, déclarer l'excellence de Dieu. Oui, cette foi-là, eh bien, est la résultante de certaines vérités qui doivent être absolument rencontrées en amont. Et donc, parmi ces vérités, il y a évidemment la foi. Nous allons relire très rapidement notre texte de Luc chapitre 17. Comment voir l'invisible, foi de Dieu, foi en Dieu, mais récapitulatif. Et nous continuerons le dimanche prochain. 17 à partir du verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Prière merveilleuse. Requête qui va trouver, si vous voulez, qui va susciter auprès du Seigneur cette démarche didactique, d'enseignement, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, suis te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi le repas, ceins-toi ou mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras, toi, tu boiras. Aura-t-il de la reconnaissance envers ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur, nous le savons tous. La vie chrétienne n'est pas une réalité statique, n'est pas une vie dans laquelle on entre, on s'assied, et puis on attend le retour du Seigneur, ou bien on attend que la mort passe par là et nous précipite dans l'éternité pour aller rejoindre le Seigneur. La vie chrétienne est une marche. Nous sommes donc en route vers l'éternité. Nous sommes en route vers notre véritable patrie, la patrie céleste. Car tout en étant sur cette terre, nous sommes des citoyens d'en haut. Oh, alléluia. Il y a la nature de Dieu qui nous habite. Tout en étant sur cette terre, tout en étant, mes amis, ici-bas, eh bien, nous avons cette grâce et ce privilège immense d'appartenir au royaume de Dieu, royaume dans lequel nous sommes entrés par la nouvelle naissance. Depuis le jour où le Seigneur est venu dans notre vie, après nous être repentis, après avoir dit non au monde, après avoir rejeté tout ce qui autrefois, eh bien, nous empêchait d'avancer, de nous épanouir, tous ceux qui autrefois étaient, mes amis, des choses abominables, des choses horribles dans notre vie. Et depuis, nous avons donc commencé, nous avons démarré cette marche, qui est une marche par la foi. Il est donc important dans cette marche-là que nous sachions, de temps à autre, même très souvent, que nous sachions nous arrêter pour essayer de regarder comment les choses se passent dans notre monde. Regarder aux différentes circonstances, aux événements qui surgissent, non seulement dans notre vie, mais aussi dans le monde. Et tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Car ce monde est appelé à passer. Car nous attendons un grand événement, le plus grand événement qui soit après la première venue, c'est-à-dire après qu'il soit venu pour payer le prix de notre rachat, pour donner sa vie en expiation de nos péchés, pour nous racheter. Le deuxième grand événement qui est devant nous, c'est donc le retour du Seigneur. Alléluia. Et pour nous permettre d'être prêts par rapport à ce retour, le Seigneur nous a laissé des signes. Il nous a laissé, oui, des signes avant-coureurs, des signes annonciateurs de son retour. Car il tient absolument que nous puissions un jour partager son éternité dans la gloire. Il tient à ce qu'un jour, alors que nous serons arrivés au terme de notre voyage ici-bas, que nous puissions passer dans l'éternité avec lui. Ou alors, que nous soyons prêts lorsque, mes amis, sa voix retentira, cette voix de commandement, lorsque la trompette sonnera, eh bien que nous soyons parmi ceux qui seront enlevés pour aller rejoindre le Seigneur dans la gloire, là sur le nuée. Alléluia. Et donc, il est important de temps à autre de jeter un regard objectif, un regard sincère, un regard éclairé par la parole de Dieu, le jeter sur tout ce qui se passe autour de nous. Voyez-vous? Et à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons dire, sans l'ombre d'aucun doute, que nous sommes entrés dans cette période de l'histoire que la Bible appelle le temps de la fin, que la Bible appelle les derniers jours. Tous les signes, mes amis, concernant le retour du Seigneur sont en train de s'accomplir. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à sortir de notre torpeur, de notre léthargie, de notre sommeil, car le jour de notre salut, de notre délivrance approche. Et pendant que ce jour du retour du Seigneur approche, l'ennemi fait tout, exerce de plus en plus son influence funeste sur l'Église. Regardez ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, ce monde physique. Toutes ces tensions entre les nations, toutes ces hostilités entre les peuples. Regardez comment les valeurs morales s'écroulent un peu partout. Regardez ce qui se passe dans nos églises. L'église qui est censée être le lieu où la vérité est prêchée, où la vérité est vécue, est devenue dans la plupart des cas des lieux de mensonges, des lieux où on manipule les gens. Beaucoup d'églises sont devenues des casinos. Les pasteurs ouvrent des églises pour avoir de l'argent, c'est tout. Vous voyez? Et donc, quand on regarde à tout cela, eh bien, on peut se rendre compte que nous sommes dans ce jour que la parole de Dieu appelle les derniers jours. Dans ce temps qui est donc le temps de la fin. Alléluia. Et l'apôtre Paul dans Romains 13, il nous le dit à partir du verset 11. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Il est donc important que nous le sachions. Il n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance. Il n'a pas voulu nous laisser dans une sorte de jungle. Non, il nous a laissé la lumière. Il nous a donné son esprit. Il régénère notre intelligence pour nous permettre de savoir en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut, notre délivrance, eh bien, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et le verset 12, la nuit est avancée. Et la bonne nouvelle, c'est que le jour approche. Alléluia. Et dans cette nuit avancée, alors que le jour approche, qu'est-ce que la Bible nous demande? Eh bien, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Dans cette nuit de plus en plus profonde, dans ce jour qui sont les derniers, où l'ennemi fait lever de plus en plus son armée pour la jeter contre l'Église de Jésus-Christ. Dans ce temps où l'ennemi fait des dégâts terribles tout autour de nous et parmi nous, combien de gens ont commencé comme nous et aujourd'hui ne sont plus dans la foi? Combien de gens ont commencé, ont eu un très bon départ, mais avec le temps, ils se sont refroidis. Ils ont été gagnés par le monde. Et petit à petit, ils ont tourné le dos au Seigneur pour retourner à leur vomissement, aux choses autrefois. Voyez? Oui, dans cette nuit profonde, que devons-nous faire? La Bible nous dit, nous devons nous revêtir des armes de la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Les armes de la lumière pour combattre nos véritables adversaires, comme nous avons eu à le voir et comme nous le verrons. Voyez-vous, on n'a pas encore terminé avec ce thème de voir l'invisible. Nos adversaires, l'apôtre Paul nous le dit, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, Éphésiens 6, voyez, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà nos véritables adversaires. Et ces adversaires-là ne s'accordent aucun répit. Voyez-vous? Ils ont une haine terrible, farouche, contre la race humaine, contre l'homme, cet homme conçu dans le péché, cet homme né dans le péché, cet homme ayant vécu dans le péché, qui un jour rencontre le Seigneur et par le miracle de la grâce, toute sa vie passée est jetée dans la mer de l'oubli. Et cet homme-là ou cette femme, autrefois pécheur, devient enfant de Dieu. Il peut appeler désormais Dieu son Père. Il devient du coup, de par sa position en Christ, héritier de Dieu. Il peut entrer dans la présence de Dieu en tout moment. Il peut invoquer le nom de son Père à tout moment. Il est destiné à vivre éternellement dans la gloire avec son Père. Le diable sait cela. Lui, il a perdu tous ses privilèges. Il sait ce qui l'attend, l'enfer, ce lieu de tourments éternels, ce lieu où brûle le feu pour l'éternité. Voilà le sort du diable, et malheureusement, le sort de tous ceux qui auront choisi de vivre selon les principes de ce monde, inspirés par le diable. Oui, le dominateur des ténèbres exerce une pression de plus en plus grande sur l'Église. Le lion des abysses rôde autour de chacun de nous, cherchant qui dévorer. Comment lui résister? La Bible nous dit avec une foi ferme. Et donc pour nous permettre de combattre, le Seigneur a mis à notre disposition toute une armure spirituelle, toute une panoplie constituée d'armes puissantes. Alléluia! Voilà les armes dont nous avons besoin pour faire reculer les ténèbres, pour conquérir des territoires, délivrer ces territoires sous l'emprise des puissances démoniaques et les confier au Seigneur pour le salut des âmes. Voyez. Et donc, parmi les armes que le Seigneur a mises à notre disposition, telles que nous le trouvons dans Éphésiens 6, il y a le bouclier de la foi. Alléluia. Oui, la foi. Nous en parlons depuis plusieurs semaines, mes amis. Il y a la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Le rhéma, qui est l'épée de l'esprit. Comment mettre en déroute toutes ces puissances des ténèbres? Eh bien, c'est en maniant l'épée de l'esprit. Alléluia. Il y a aussi la prière. Pas n'importe quelle prière, la prière par l'esprit, avec toutes sortes de prières. Oh, alléluia. Cela rejoint, mes amis, notre vocation de sacrificateur, mais aussi notre vocation d'être un sacerdoce royal. Gloire à Dieu. Oui, la foi. La foi. Nous en parlons depuis cette foi dont nous avons besoin pour entrer dans l'univers du surnaturel. Cette foi dont nous avons besoin pour manifester le règne de Dieu dans nos besoins. Cette foi dont nous avons besoin, mes amis, eh bien, pour affronter le diable où qu'il soit. Cette foi dont nous avons besoin pour aller de l'avant, de victoire en victoire, quelles que soient les circonstances qui nous environnent, quels que soient les obstacles que le diable dresse sur notre route, au nom de cette foi. Et par cette foi, eh bien, nous irons de l'avant. Nous marcherons sur toutes les œuvres des ténèbres. Notre Sauveur, et en même temps notre Seigneur, a tout accompli à la croix. Il a vaincu pour nous. Il a arraché l'autorité au diable, cette autorité que le diable avait usurpée à nos premiers parents. On a eu à en parler pendant des semaines. Et cette autorité est désormais entre les mains de notre Sauveur. Et il met cette autorité à la disposition de tous ses enfants. Et donc, nous avons besoin de cette autorité. Mais qu'est-ce qui va déclencher cette autorité-là, si ce n'est la foi? Alléluia. Voilà pourquoi les apôtres, à cet instant précis, évidemment, après avoir observé le Seigneur accomplir des miracles, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques, après l'avoir entendu prêcher comme jamais homme n'a prêché, car il prêchait avec autorité. Après avoir assisté à cette démonstration de puissance, au règne, à la manifestation du règne de Dieu, ils sont arrivés à cette conclusion qu'il leur fallait quelque chose. Ils connaissaient des choses, ils avaient la foi qui leur avait permis d'être sauvés, n'est-ce pas? Mais il leur fallait, en plus de tout cela, avoir la foi de Dieu qui leur permette d'affronter n'importe quelle situation. Car Dieu est toujours vainqueur. Alléluia. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Face à la mer Rouge, eh bien, il n'a pas demandé à Moïse de faire n'importe quoi, de se livrer à des rites. Il lui a dit, prends ton bâton, frappe les eaux de la mer. Moïse a obéi. Et résultat, les eaux se sont séparées. La puissance n'a pas résidé dans le bâton, mais dans l'obéissance de Moïse à cette parole que le Seigneur lui a donnée. La parole qui sort de la bouche de Dieu, qui génère en nous le rhéma. Et quand nous nous levons pour proclamer cette parole, eh bien nous pouvons voir l'invisible à l'œuvre. Nous pouvons assister à des changements. Alléluia. Et gloire au Seigneur. La foi. Ils l'ont demandé. Augmente-nous la foi. Donne-nous cette capacité d'expérimenter des grandes choses. Seigneur, comme toi, nous voulons voir les ténèbres reculer. Nous voulons voir les pécheurs être sauvés. Nous voulons voir les malades être guéris. Nous voulons voir les esclaves, les prisonniers du diable être libérés. Augmente-nous cette foi. Fais-la croître en nous. Et le Seigneur, comme toujours, a bien accueilli cette parole, cette requête de prière. Et il commence par ce constat, pour montrer qu'effectivement, il manquait cette foi-là. Il dit, si vous aviez un peu de foi, comme le grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, vous diriez à cet arbre, déracine-toi, jette-toi dans la mer, et l'arbre vous obéirait. Si vous aviez cette foi-là, en petite quantité, voilà ce que vous feriez, n'est-ce pas? Mais il ne s'est pas arrêté au niveau du constat. Il va leur laisser, il va leur donner un enseignement, un des grands enseignements sur la foi dans le surnaturel. Un des grands enseignements sur la foi de Dieu. Car c'est une chose d'avoir foi en Dieu, mais ça n'est une autre face au problème de faire preuve de la foi de Dieu qui nous amène à déclarer et à voir nos déclarations devenir des réalités visibles et palpables. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et c'est là qu'il va leur donner cet enseignement. Il va leur livrer, si vous voulez, la clé pour ouvrir la porte qui donne accès à cette foi dans le surnaturel. Cette foi qui permet au règne de Dieu de descendre dans notre vie et de se manifester. Et quand le règne de Dieu se manifeste, les choses changent autour de nous. Alléluia. Quand l'invisible divin, mes amis, se manifeste dans le visible ici, tout change autour de nous. Alléluia. Et nous avons vu que cette foi-là, c'est une foi qui peut grandir. Mais avant de grandir, elle doit naître, n'est-ce pas? Elle naît dans certaines conditions. Et nous avons examiné pendant quelques dimanches les quelques conditions qui permettent à cette foi d'émerger, de naître, voyez-vous, et de nous amener à entrer dans le surnaturel. Voyez? Et donc tout tourne, encore une fois, autour, dans cette parabole, autour d'abord de la condition du serviteur. Il est serviteur esclave. Ensuite, tout tourne autour de la relation que ce serviteur esclave a avec son maître. Voyez, cette relation est déterminante. Le maître sait que son serviteur esclave a besoin de manger, a besoin de boire. Il sait que son serviteur esclave a de besoins, n'est-ce pas? Il le sait très bien. Et il est le seul qui puisse rencontrer véritablement le besoin de son serviteur. Voyez? Mais pour autant, et ça c'est la première vérité que nous avons mise en évidence, pour autant que le serviteur assume pleinement sa condition de serviteur esclave. Il doit savoir à qui il appartient. Il doit savoir que le maître à qui il appartient ne peut jamais accepter qu'un autre maître puisse s'infiltrer dans la vie de son serviteur. Il veut que le serviteur lui appartienne en tout. Alléluia. Qu'il soit à lui totalement et entièrement. Voyez-vous? Il doit donc assumer, vivre pleinement sa condition de serviteur. Ne jamais trahir son maître. Ne jamais se prostituer, faire commerce avec d'autres maîtres. Ce qui arrive malheureusement. Beaucoup ont commencé en étant serviteurs. Et puis ensuite, en expérimentant cette grâce d'être l'esclave du Christ, comme tous ceux qui nous ont précédés. Mais avec le temps, ne pouvant pas supporter les épreuves, ne pouvant pas, eh bien, faire face à toutes sortes de tribulations, ils ont fini par aller chercher du secours en Égypte. Ils se sont compromis. Dieu n'aime pas la compromission. Il est tout puissant pour nous libérer de n'importe quelle situation. S'il n'agit pas aujourd'hui, eh bien, il sait pourquoi. Continuons à lui faire confiance. Car Dieu a un plan non seulement pour notre vie, mais il a aussi un plan à travers notre vie. Il aimerait par notre vie bénir d'autres personnes. Et donc, il est à l'œuvre. Alors, quelquefois, nous perdons de patience. Parce que nous limitons le plan de Dieu uniquement à notre vie. Seigneur, bénis-moi et tout ça. Dieu veut aller au-delà. Et le plan qu'il a à travers notre vie, eh bien, peut s'étendre, peut aller au-delà sur plusieurs années. Voilà. Il prépare les choses, les circonstances. Parce qu'il voit au-delà. Alléluia. Tu passes par des moments difficiles, tu pleures. Gloire à Dieu. C'est dans les larmes, dans le sang. Mes amis, que Dieu œuvre puissamment en nous. Alléluia. Il travaille en nous. En même temps, il travaille autour de nous. Car lui ne s'accorde pas non plus un répit. Hein. Il est à l'œuvre. Jusqu'à ce que toutes les conditions soient remplies. À ce moment-là, il intervient en notre faveur. Alléluia. Et quand il intervient, non seulement il nous bénit, mais il fait de nous une source de bénédiction pour les autres. Gloire à Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Un exemple sur lequel j'ai déjà eu à prêcher, c'est Zacharie, le sacrificateur, avec sa femme Élisabeth. Il était sacrificateur. Il servait Dieu. Et la Bible lui rend, non seulement à lui, mais aussi à son épouse. Il leur rend un très bon témoignage. C'était des hommes justes devant Dieu. Ils marchaient dans la crainte de Dieu. Zacharie savait que le sacerdoce se transmettait de père en fils. Il fallait appartenir à la lignée de Lévite, n'est-ce pas? Il fallait être fils d'un serviteur, d'un sacrificateur, pour aspirer à être sacrificateur. Et donc, aussitôt marié, il a eu à demander au Seigneur de lui donner un garçon, ou même plusieurs garçons, n'est-ce pas? Car à l'époque, c'était une bénédiction d'avoir des enfants, comme d'ailleurs aujourd'hui. Vous savez, là, c'est une parenthèse. Les pays occidentaux sont confrontés à un problème gravissime de dénatalité. Les femmes là-bas ne font plus d'enfants. C'est un problème grave. Pour vous donner les statistiques que j'ai lues la semaine passée, il y a eu, l'année passée, en 2025, il y a eu en France plus de cercueils que de berceaux. C'est-à-dire, pour une fois, il y a eu plus de morts que de naissances. Et donc, le solde naturel est négatif. Voilà. La population a besoin de se régénérer. Donc depuis, je crois, la Deuxième Guerre mondiale, plus de cercueils, moins de naissances. Et ça donne du tournis à tous ces gouvernants. Que faire pour pousser les jeunes filles à faire des enfants? Mais ce n'est pas facile. Au nom de l'égalité, puisque tout le monde veut faire sa carrière, la femme a étudié, ben elle aimerait travailler, n'est-ce pas? Et en même temps, les structures de prise en charge pour les nouveau-nés, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Notre belle-fille a attendu plusieurs mois pour avoir une place à la crèche. Comment, dans ce contexte-là, encourager les filles à faire des enfants? Et donc, c'est un problème. Vous voyez? Je referme la parenthèse. Mais maintenant, ici chez nous, nous en faisons. Il y en aura combien? Mais il faut pas en faire de manière irrationnelle. Voyez-vous? Mais il n'y a pas de plus grand trésor, de plus grand bonheur que de donner la vie. Alléluia. Et de permettre à cette vie qu'un jour, elle aussi, donne la vie. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Oh, alléluia. Et gloire au Seigneur. Donc, nous devons, pour revenir à la foi, cette foi dans le surnaturel, cette foi pour vivre les miracles, cette foi pour bien combattre nos adversaires, quels qu'ils soient, cette foi, mes amis, pour ouvrir la porte qui conduit tout droit à la manifestation du règne de Dieu, cette foi-là, eh bien, naît dans certaines conditions. La condition d'esclave et serviteur. Il faut que le serviteur esclave veille sur lui-même, qu'il ne pense pas qu'avec les années de conversion, il serait devenu dans l'œuvre de Dieu une sorte de contre-maître. Non, il n'y a pas de contre-maître. Il n'y a qu'un seul maître dans l'œuvre de Dieu. Et nous tous, nous sommes des serviteurs. Mais des serviteurs appelés à devenir des esclaves. Voilà le prix à payer. Un esclave, mes amis, appartient totalement à son maître. Et nous devons vivre, mes amis, cette dépendance totale à Dieu et à Dieu seul. Ça ne va pas aujourd'hui? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est encore assis sur le trône. Je sais que le problème auquel je suis confronté et peu de choses pour lui. Ce qui me paraît être une montagne infranchissable, une sorte de Kilimandjaro des problèmes, et pour lui une petite taupinière. Vous voyez des petits monticules là, vous voyez là, le rat-top. Hein, donc souterrain, ils font des petits monticules de terre que vous pouvez avec votre pied écraser. Vous voyez, vous pouvez donner un coup de pied et puis ça y est. Vous voyez? Là où nous voyons des arbres qui nous dépassent, lui voit une petite plante de rien du tout. Voyez, ça c'est notre Dieu. Et donc avec lui tout est possible. S'il permet que nous passions par des moments difficiles, il sait pourquoi. Et Zacharie et Élisabeth ont attendu longtemps cet enfant. Et Zacharie savait que s'il mourait sans enfant, eh bien il priverait Dieu d'un héritier. Il priverait Dieu de quelqu'un appelé à travailler dans le temple. Il le savait. Et nous pouvons nous imaginer combien ils ont pleuré tout au long de leur vie à deux. Voyez? Demandant au Seigneur de leur donner un enfant. Mais le ciel est resté silencieux. Voyez-vous? Et en même temps, les années ont passé. Et avec les années, le corps change, oui ou non? On arrive à un certain âge où la femme ne peut plus concevoir. Voyez-vous? Et donc, le désespoir et peut-être s'est peut-être emparé d'eux. Et puis il y a eu le regard des voisins. Tiens, elle est toujours stérile. Ouf. Nous nous sommes mariés en même temps. Moi, j'en ai 6. Vous voyez, il y a des gens comme ça, pas méchantes, hein. Oh, si je pouvais même lui en prêter un. Si son mari peut venir chez moi, je lui susciterai une postérité. Oui, le regard des autres. Pouvait-il s'imaginer, les deux là, Zacharie et son épouse, que Dieu avait un plan pour eux, mais aussi un plan à travers eux. Dieu travaillait tout autour, préparant les circonstances. Lorsque tout était prêt, entre-temps, Zacharie ne savait rien. Élisabeth ne savait rien. Quand tout a été prêt, à ce moment-là, Dieu a envoyé un ange pour rassurer le vieil homme qu'enfin, après autant d'années de persévérance, autant d'années de confiance, voyez-vous, notez bien qu'il ne s'est jamais découragé, hein. Il n'a pas déserté, il dit, parce que tu ne m'as pas donné un enfant d'ailleurs, je laisse ça. Quel ministère, allez, je m'en vais. Élisabeth, nous allons nous lancer dans l'élevage, dans l'agriculture. Ces histoires de sacrificateurs, regardez, ce Dieu-là, il avait donné un enfant à Abraham, aux autres. Nous, ça fait des années. Non, il est resté fidèle. C'est d'ailleurs, lors de son exercice, l'exercice de sa fonction de sacrificateur, que Dieu va lui envoyer un ange pour le rassurer, pour lui dire, enfin, ta prière a été entendue. D'ailleurs, sur les champs, il n'a pas tellement cru. Ta femme t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yohanan. Traduit en grec, en français, Jean. Et Yohanan veut dire l'Éternel fait grâce. Oh, alléluia. Et quelques temps plus tard, la femme est devenue enceinte. Quelques mois plus tard, un enfant est né. Pour la plus grande joie des parents, n'est-ce pas? Ils pouvaient aussi se balader dans la rue avec leur bébé. Ils pouvaient aussi être fiers et dire, enfin, Dieu nous a donné un enfant. Ça, c'est eux, non? Mais Dieu va aller plus loin. Il va donner à Israël le précurseur du Messie. Alléluia. Le précurseur du Messie. Mon frère, endure encore. Dieu sait. Là où tu es, tu veux partir. Seigneur, je dois aller. Parce qu'ici, je ne touche pas beaucoup. J'ai mis des dossiers où j'ai déposé des dossiers à gauche, à droite. On ne m'appelle toujours pas. Alors que j'ai rempli toutes les conditions, j'ai les compétences, j'ai un parcours extraordinaire. Tout le monde parle du bien de moi, Seigneur. Mais je voudrais partir. Tel est parti. Aujourd'hui, il est bien. Tel autre est parti. Il est même conseiller du premier ministre. Mais moi, je suis toujours ici, Seigneur. Jusqu'à quand? Rien ne s'ouvre. Il sait. Jusqu'à ce qu'un jeune homme viendra. Fraîchement engagé, arrivera dans ton service pour que tu puisses le coacher. Et puis tu parleras du Seigneur à ce jeune-là. Alléluia. Et puis ce jeune homme recevra le Seigneur. Voyez-vous? Et puis la vie du jeune homme va changer. Il est bouillant, tout feu, tout flamme. Il grandit dans son église, il est baptisé. Il commence à servir Dieu. Vous voyez? Et puis un jour, toujours dans le cadre de ce travail, il dit, voilà, tu vas être muté en Bandaka. Il accepte volontiers. Et il part en Bandaka, dans le cadre de ses fonctions. Et là, il arrive, il ouvre une petite cellule. Des gens viennent, et puis la cellule devient une église, et puis il va ouvrir une deuxième église, et puis une troisième église. Voyez? Donc il a fallu que tu attendes, car Dieu avait un plan à travers toi. Il a fallu que cet homme-là vienne, se convertisse. car Dieu avait un plan pour cet homme-là et à travers cet homme. Maintenant que tout cela s'est réalisé, Dieu peut enfin t'ouvrir la porte. Voyez-vous, donc ne forcez pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Nous devons vivre pleinement notre condition de travail, de serviteur esclave, dépendre entièrement du Seigneur. Il ne veut pas nous partager avec qui que ce soit. Il a d'ailleurs dit, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas aimer deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas être au service de deux maîtres à la fois. Ou soit tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Voyez-vous? Ou soit tu t'attacheras à l'un et tu tourneras le dos à l'autre. Ça, c'est notre Dieu. Mon frère, ma sœur, veux-tu remplir cette condition en amont pour que Dieu prépare tout dans ton cœur afin d'augmenter, de susciter cette foi dans le miracle et t'amener à proclamer la supériorité de Dieu dans ton besoin, la supériorité de Dieu dans ton problème. Je crois que tous nous le voulons, n'est-ce pas? Alors, soyons des serviteurs esclaves. Veillons sur notre condition de serviteurs. Travaillons notre relation. Que nous dépendions en tout et pour tout du Seigneur. Que nous arrivions à dire avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je suis son serviteur, mais avec le statut d'esclave. Je vais là où il m'envoie. S'il me demande de m'asseoir, je m'assieds. S'il me demande de me lever et de sortir, je sors, quand bien même il pleuvrait. Je n'ai pas d'autre volonté que de faire sa volonté. Acclamons son nom. Nous allons nous lever et j'aimerais que nous puissions prier. Que nous demandions au Seigneur de nous aider à vivre dans notre condition de serviteur esclave, à nous débarrasser de ce moi égoïste, de ce moi qui aime bien courtiser avec d'autres maîtres, mais qui nous aide à n'avoir d'autres maîtres que lui et lui seul, qui nous aide à veiller sur notre relation, à travailler notre relation pour la rendre de plus en plus intime. Voyez-vous, c'est dans ces conditions-là que Dieu va faire naître cette foi qui va nous faire entrer dans le miracle. C'est une foi ponctuelle, comme on l'a vu l'autre fois. Augmente-nous, c'est une foi. Voyez-vous? Donc par rapport à ce besoin-là, Seigneur, j'ai besoin de cette foi. Suscite-la en moi. Alors prions tous ensemble. Oh, alléluia. Augmente-nous, Seigneur, la foi. Donne-nous cette foi, Seigneur, dont nous avons besoin pour expérimenter ton règne dans notre vie. Cette foi dont nous avons besoin pour déplacer les montagnes qui nous empêchent de progresser dans la vie, qui nous empêchent de nous épanouir dans notre marche avec toi. Donne-nous cette foi, Seigneur, pour combattre nos véritables adversaires. Car cette foi, Seigneur, est un véritable bouclier dans ce combat contre les puissances des ténèbres. Augmente-nous cette foi, ô Dieu, Seigneur de gloire. Merci de nous aider à être des serviteurs esclaves, à dépendre totalement de toi, comme cet esclave de la parabole, qui était totalement entièrement au service de son maître. Ces serviteurs qui étaient actifs, Seigneur, dans les choses appartenant à son maître, travaillant parmi son troupeau ou ses troupeaux, travaillant dans son champ. Oui, donne-nous d'être actifs. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Te prions maintenant, Dieu, de bénir ces offrandes, ces dîmes et notre soutien à la construction. Là aussi, Seigneur, nous voulons marcher par la foi. En te donnant, Seigneur, nous t'exprimons notre reconnaissance pour tous les bienfaits que tu ne cesses de nous accorder. Mais en même temps, en te donnant, Seigneur, nous semons d'une manière ou d'une autre. Transforme ces dons, ces offrandes en une semence appelée, Seigneur, à produire du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.